Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les journaux, Blaise Chindadi Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, les acteurs politiques et humanitaires de plus de 50 pays africains se réunissent à partir de ce jeudi 30 octobre à Paris en France. Pour Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC, qui est l'invité de ce journal, cette conférence va resensibiliser la communauté internationale à l'urgence de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des affres et de la guerre dans l'est du Congo et dans l'ensemble de la région. Aimé Boji, élu de Walungu au Sud Kivu, désigné officiellement comme candidat unique de l'Union Sacrée pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Selon André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir, ce choix est le résultat d'un consensus autour de l'autorité morale de l'Union Sacrée Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parlé du matin. Les regards sont tournés ce jeudi vers Paris où plusieurs acteurs politiques et humanitaires issus d'une cinquantaine de pays se réunissent à partir de ce jeudi 30 octobre 2025 dans la capitale française à Paris. Ils font une autopsie de la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs afin de trouver des solutions. Cette initiative portée par la France et co-présidée par le Togo, il faut le souligner, vient en appui aux efforts diplomatiques déjà engagés à Doha et à Washington. Pour Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, cette conférence va resensibiliser la communauté internationale à l'urgence de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des affres et de la guerre dans l'est du Congo et dans l'ensemble de la région. Il l'est dit au micro de Ronelli Ntibonera.
Les efforts de financement dans le domaine humanitaire sont en baisse. On l'a vu notamment ici en RDC avec la fermeture de USAID, la fin de certains financements. Mais ça ne concerne pas que les États-Unis. On se constate en matière d'aide humanitaire une certaine fatigue. Et pour remobiliser, il faut réexpliquer quelle est la situation. Et c'est pour ça que lors de la conférence de Paris vont intervenir des acteurs humanitaires, que ce soit des agences des Nations Unies, mais aussi des représentants de la société civile congolaise, pour expliquer la réalité du terrain. Ça, c'est la première partie de la conférence. L'autre partie, c'est de discuter, comme je l'ai dit, du droit international humanitaire. Parce qu'au-delà des financements, ce qui est important, c'est que les acteurs humanitaires puissent travailler librement, qu'il n'y ait pas d'entrave à leur action, qu'ils puissent accéder aux populations dans le besoin, et qu'il y ait des facilités d'exercice de leur mission, des facilités d'accès aux zones, tout ça dans le respect du droit international humanitaire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, Rémi Maréchaux est à suivre comme invité à la fin de ce journal. Mais qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces grands rendez-vous de Paris ? En tout cas, la RDC salue l'organisation de cette conférence de Paris, c'est jeudi 30 octobre, par la France. Le ministre de la Communication et Médias, qui l'est dit, estime que cette conférence permettra, entre autres, de prendre en compte le volet humanitaire qui n'est pas repris dans les négociations de Washington et de Doha. Patrick Mouyaya confirme également que la RDC sera représentée au plus haut niveau par le président de la République et la ministre des Affaires étrangères. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe au micro d'Alain Irung.
D'abord, nous saluons l'initiative prise par le président français de faire cette conférence humanitaire qui a pour vocation, dans ce que nous avons compris, de prendre en charge les questions qui ne figurent pas d'abord sur la table des discussions, que ce soit à Doha et à Washington. Vous savez que la RDC traverse la deuxième plus grande crise humanitaire d'Afrique et cette conférence a pour objectif principal justement de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à cette urgence humanitaire. Ce sera aussi l'occasion de soutenir la dynamique des négociations et des discussions en cours, parce que vous savez notamment que Dr Boulos y participera. Mais c'est aussi une conférence qui offrira l'occasion de faire davantage des analyses sur les cadres d'intégration économique régionale, qui est le pendant économique de l'accord de Washington. Et donc, c'est un rendez-vous auquel nous allons répondre à plus haut niveau. Le président de la République y prendra part, la ministre des Affaires étrangères aussi, pour s'assurer que nous avons partagé nos opinions et voir comment la communauté internationale pourra se mobiliser pour apporter la réponse humanitaire à cette crise qui décime cette partie de notre pays.
Revenons à présent sur les négociations de Washington. 4 mois après la signature de l'accord de paix, le 27 juin 2025 dans la capitale des États-Unis entre le Rwanda et la RDC, sous l'égide des États-Unis, les progrès réalisés dans la mise en œuvre demeurent fragiles et inégaux selon le nouveau rapport du baromètre des accords de paix en Afrique. Cependant, le ministre de la Communication et Médias estime qu'il n'y a pas de blocage particulier, mais que l'on est plutôt dans un processus complexe qui avance plutôt bien. Patrick Muyaya l'a déclaré hier mercredi au cours de l'émission Parole aux auditeurs, animé par Marcel Ngombo. Il réaffirme aussi la volonté du président de la République et du gouvernement congolais à mettre fin au calvaire des populations de l'Est qui n'ont que trop souffert. On écoute Patrick Muyaya Katembwe dans cet extrait proposé par Alain Irungu.
Je ne pense pas qu'il y a des blocages particuliers. Parce que nous sommes dans un processus qui est complexe au départ. N'oublions pas que la volonté principale du président de la République, c'est de mettre un terme de manière définitive à cette guerre récurrente depuis plus de 30 ans qui dure 3 décennies. Et donc ce n'est pas une guerre qui dure 3 décennies avec des motifs qui sont ceux-là. Ne peut pas se terminer comme un abattement de doigts juste parce qu'on a signé un accord. Ceci dit, il faut regarder les contextes dans lesquels cet accord a été signé. La particularité de l'accord de Washington, c'est que c'est un accord qui est venu spécifiquement régler les vraies raisons du conflit. Ça veut dire, il y a 2 pendants dans le conflit, il y a un problème sécuritaire, il y a surtout un problème économique parce que c'est finalement l'économie qui est la base de la guerre. Et lorsque nous sommes partis à Washington discuter de tous ces éléments, il y a eu d'une part la République démocratique du Congo, évidemment le Rwanda. Et dans l'accord de Washington, il y a des principes qui ont été rappelés.
Sécurité toujours et direction Beni dans le Nord Kivu, avec la clôture hier mercredi de l'atelier interprovincial de 2 jours sur un appel fort. Séparer les enfants encore associés aux groupes armés dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Les participants demandent au gouvernement congolais et à la communauté internationale de renforcer les efforts pour mettre fin à cette grave violation des droits de l'enfant. Raphaël Loumont, membre du réseau régional des organisations de la société civile contre les recrutements et l'utilisation des enfants soldats, organisateur de la télé avec l'appui de la MONUSCO, explique au micro de Martial Papimukeba.
Il y a encore plus de 32 522 enfants encore actifs dans les groupes armés et 28% sont des filles, selon les données collectées dans les 5 provinces. D'abord, le gouvernement congolais doit encore déployer beaucoup d'efforts dans l'instauration de l'autorité de l'État dans les 5 provinces. Et en deuxième lieu, faciliter la séparation de ces enfants qui sont encore utilisés par les groupes armés dans ces 5 provinces. Et en troisième lieu, ces enfants doivent être réinsérés dans leur communauté. La communauté internationale, c'est d'accompagner le gouvernement congolais dans les processus de paix qui sont engagés. Plus les groupes armés sont encore actifs, plus les enfants sont encore. Les acteurs locaux, nous restons engagés dans la surveillance avec tout ce qu'il y a comme utilisation d'enfants par les groupes armés encore actifs.
Le député national Aimé Bogi, élu de Walungo Sud Kivu, désigné officiellement comme candidat unique de l'Union Sacrée pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Annonce faite ce mercredi par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir. S'exprimant devant la presse, André Mbata affirme que ce choix est le résultat d'un consensus autour de l'autorité de référence de la plateforme, à savoir le président de la République Félix Tshisekedi. Il dit également avoir organisé des concertations avec les membres du Présidium de l'Union Sacrée et les 11 autres députés qui avaient exprimé l'ambition de briguer ces postes. On écoute André Mbata au micro de Grace Hamzati.
L'honorable Bogi Sangara Aimé est donc à partir de cet instant le candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et les différents au niveau de la plateforme présidentielle, ceux qui cherchent des problèmes ou des factures qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent, il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sous demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Donc ça c'est au niveau politique. Le reste maintenant, ça va suivre son cours au niveau de l'Assemblée nationale.
Chapitre économique à présent. Les minerais stratégiques de la RDC réunissent les personnalités du secteur minier depuis hier mercredi à Lubumbashi. Objectif de cette 9e édition de 3 jours de l'alternative Mining Indaba RDC, redéfinir la gouvernance minière pour qu'elle serve d'abord le peuple congolais et faire entendre la voix des communautés qui vivent au quotidien les réalités de l'exploitation. Le thème retenu est « Minerais stratégiques de la RDC, enjeux géopolitiques mondiaux et impacts socio-économiques locaux ». Le point avec Paulin Munanga.
Pour les directeurs exécutifs de l'ONG Sarwa, les impacts socio-économiques de l'exploitation minière se font sentir au sein des communautés. Claude Kabemba cite notamment la pollution, la pauvreté persistante et le manque d'accès aux études de qualité pour les enfants. D'après lui, il est temps de refuser que la RDC soit une simple plateforme d'extraction au service des économies étrangères. Il souligne qu'au sein de l'alternative Mining Indaba, les communautés et la société civile s'expriment. Claude Kabemba.
L'alternative Mining Indaba est née pour porter la voix des sans-voix. Elle est un espace de dialogue, d'écoute et de proposition. Ici, les communautés et la société civile parlent, les décideurs écoutent et ensemble, nous construisons un avenir minier plus juste, plus durable et plus souverain.
La représentante de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO explique la meilleure façon de réussir et d'atteindre les impacts socio-économiques locaux.
Instaurer la gouvernance locale participative de nos minerais. La redevabilité, la traçabilité dans la gestion, la transparence de gestion où vont nos minerais.
Cette 9e édition de l'alternance Mining Indaba RDC va durer 3 jours. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
On a aussi parlé minerais ici à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale. Le député national Thierry Mulumba Pandangila a déposé hier mercredi à l'Assemblée nationale une proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en République démocratique du Congo. Selon cet élu de Demba au Kasaï central, l'objectif de cette loi est la promotion de l'industrialisation de la RDC par la transformation locale des substances minérales pour permettre une croissance économique plus rapide ainsi que le développement du pays. Le député Thierry Mulumba explique dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Cette loi est un bras législatif ou un instrument législatif important pour l'économie de notre pays. Parce que cette loi vient en complément du code minier. Le code minier qui a prévu dans ses dispositions, notamment aux articles 82 et 108, que la transformation des substances minérales serait prise en charge par une législation dédiée. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'à travers cette loi, nous allons venir combler un vide juridique qui existe. C'est-à-dire, cette loi vient encadrer la transformation des substances minérales en République démocratique du Congo. Tenez, l'exploration, l'acquisition des droits miniers, l'extraction et la concentration des substances minérales, le code minier régit ces activités qui représentent seulement 15% du marché des substances minérales. Par contre, la loi que nous venons de proposer aujourd'hui encadre les activités industrielles post-extractives qui représentent 85% du marché international. Cela veut dire que l'application de cette loi aura un impact important sur l'économie de notre pays et du reste bénéfique pour notre population qui en tirera les dividendes.
Impraticabilité de la route nationale numéro 4 dans la province de la Tchopo, la population ne sait plus à quel sein se vouer. Dans les segments relevant de la province, cette situation affecte négativement l'activité commerciale dans la ville de Kisangani. Pour preuve, sur les marchés locaux, les prix des denrées alimentaires en provenance de l'est du pays s'envolent. Les explications avec Jacques Mokonkole.
La route n'est impraticable que dans la partie relevant de la Tchopo, déclare un conducteur de véhicule. Si la route est réhabilitée et que les taxes illégales sont supprimées, les produits alimentaires coûteront moins cher, dit-il.
De Butembo à Kitangani, si la route est bonne, c'est une affaire de 2 à 3 jours. Si les véhicules arrivent dans ces délais et si les taxes ne sont pas prélevées, n'est-ce pas que les prix seront abordables?
Beaucoup de denrées alimentaires qu'on retrouve sur le marché local proviennent notamment des Litouri et du Grand Nord en empruntant la nationale numéro 4. Haricots, oignons, ail et autres poissons salés ont démesurément augmenté des prix, témoigne cet homme.
Les oignons, on achetait avant à 2000 francs. Aujourd'hui, c'est à 8000. Les pommes de terre coûtent actuellement 5 à 6000 francs au lieu de 3000 autrefois. Le chou qu'on achetait à 2000 sont vendus maintenant à 8000 francs.
Le souhait de tous est de voir les autorités s'investir dans la maintenance de cette route d'intérêt capital pour les populations de l'est du pays. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Tanzaniens ont voté ce mercredi 29 octobre pour élire leur nouveau chef d'État. Malgré le déploiement sécuritaire mis en place pour décourager des potentiels manifestants, des heurts ont éclaté un peu partout dans Dar es Salaam, la capitale économique, et dans d'autres villes du pays.
L'invité.
Paris, la capitale française, est depuis ce jeudi au cœur des discussions visant à sensibiliser davantage la communauté internationale à la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Cette initiative, portée conjointement par la France et les Togo, vient en appui au processus de paix en cours soutenu par les États-Unis et le Qatar. Pour en parler, nous recevons Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Il nous explique les enjeux de cette rencontre au regard de la situation vécue dans l'Est de la RDC et dans les pays voisins de la région. Rémi Maréchaux répond aux questions de Ronéline Thibonera. Suivez.
Monsieur l'ambassadeur Rémi Maréchaux, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les principales motivations de la France dans l'organisation de cette conférence consacrée à la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs? Quels objectifs concrets Paris souhaite-t-il atteindre à travers cette initiative?
Merci. Par cette initiative, l'organisation de cette conférence, la France souhaite soutenir les efforts de médiation qui sont conduits aujourd'hui par les États-Unis et le Qatar. Et d'ailleurs, le docteur Boulos et le ministre Al-Roulaifi seront présents à cette conférence. L'objectif est de traiter une demande pressante qui n'est pas directement traitée par les processus de Washington et de Doha, qui est la situation humanitaire à l'est de la RDC, mais plus largement dans la région aussi en raison des déplacements de population. La France, par cette conférence, veut resensibiliser l'ensemble des partenaires de la RDC sur l'urgence de la situation humanitaire, obtenir des annonces de contributions financières, mais obtenir également le rappel du droit international humanitaire, afin d'assurer aux acteurs humanitaires la capacité de faire leur travail.
En quoi cette conférence est distincte-t-elle des autres initiatives régionales ou internationales déjà engagées pour répondre à la crise des Grands Lacs, et qu'apporte-t-elle de nouveau en termes d'approche ou des partenariats?
Comme je l'ai dit dans votre première question, l'objectif, c'est pas du tout d'avoir une nouvelle initiative française. Notre objectif, c'est de soutenir les initiatives existantes, et comme je l'ai dit, le processus de Washington et le processus de Doha, en apportant un complément sur la situation humanitaire. C'est bien ça l'objectif. On a monté cette conférence en concertation avec les États-Unis et le Qatar, et ce qui est important, vous l'avez souligné vous-même, c'est que cette conférence est sous coprésidence du Togo, en qualité de médiateur de l'Union africaine et de la France.
Si c'est pas un secret, les Togo figurent parmi les co-organisateurs de cette conférence. Les choix traduisent-ils la volonté de la France de soutenir davantage les solutions africaines et la diplomatie régionale pour résoudre les crises humanitaires et sécuritaires à la manière africaine?
C'est pas soutenir davantage parce que le Togo participe déjà aux discussions à Washington, il participe déjà aux discussions à Doha. Donc le président Fornasimbe était désigné comme médiateur par le président en exercice de l'Union africaine, le président angolais, João Lourenço. Et donc le Togo fait déjà partie de tous les efforts en cours. Il était logique que dans cet effort français qui se veut complémentaire, nous le fassions en étroite concertation avec le Togo.
De nombreuses organisations humanitaires sont aujourd'hui en train de déplorer la baisse des financements destinés aux populations vulnérables. Comment la France attend-elle mobiliser la communauté internationale autour d'une réponse collective et durable, au-delà de ses propres efforts bilatéraux?
Alors, vous avez raison de dire que les efforts de financement dans le domaine humanitaire sont en baisse. On l'a vu notamment ici en RDC avec la fermeture de USAID, la fin de certains financements. Mais ça ne concerne pas que les États-Unis. On se constate en matière d'aide humanitaire une certaine fatigue. Et pour remobiliser
il faut réexpliquer quelle est la situation. Et c'est pour ça que lors de la conférence de Paris vont intervenir des acteurs humanitaires, que ce soit des agences des Nations Unies, mais aussi des représentants de la société civile congolaise, pour expliquer la réalité du terrain. Ça, c'est la première partie de la conférence. L'autre partie, c'est de discuter, comme je l'ai dit, du droit international humanitaire. Parce qu'au-delà des financements, ce qui est important, c'est que les acteurs humanitaires puissent travailler librement, qu'il n'y ait pas d'entrave à leur action, qu'ils puissent accéder aux populations dans le besoin, et qu'il y ait des facilités d'exercice de leur mission, des facilités d'accès aux zones, tout ça dans le respect du droit international humanitaire.
Pour terminer, Monsieur l'Ambassadeur, la République démocratique du Congo est au cœur des enjeux humanitaires et sécuritaires dans les Grands Lacs. Quelle place la France souhaite-t-elle accorder à la RDC et sa société civile, surtout dans cette dynamique de recherche de solutions durables pour la stabilité et développement de la région?
Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier, comme je l'ai dit, c'est que la société civile congolaise, donc des ONG congolaises, mais aussi la coordination d'ONG congolaises, des représentants de la société civile, sont associés, participeront directement à la réunion de Paris pour une action de plaidoyer, pour expliquer aux 50 pays et organisations internationales représentées quelle est la réalité de la situation. Au-delà, sur la recherche d'une solution durable, nos efforts sont un appui déterminé au processus de Washington et au processus de Doha. Donc on ne veut pas aller plus loin. Aller plus loin et faire autre chose serait une distraction des efforts en cours. On a toujours dit qu'il n'y avait pas de solution militaire à cette crise, que la solution devait être politique. Et aujourd'hui, l'option politique qui est sur la table, ce sont les efforts des États-Unis et du Qatar que nous entendons soutenir.
Monsieur l'ambassadeur Rémi Maréchaux, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC, qui s'entretenait avec Ronéline Thibonera. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Parler du Matin, coordonnée par Richard Junior Kamunga et supervisée par Lévin Mbuinga Vubu, Alain Goy, la mise en onde. Merci et à la prochaine.